Pour les non-initiés, et cela incluait bon nombre de flics et pas mal d'agents du FBI avec lesquels il avait travaillé au fil des ans, l'hypnose était souvent une manière de vaudou auquel on recourait lorsqu'il n'y avait plus rien à faire, hormis s'en remettre à une voyante. Bref, c'était le signe même qu'on piétinait ou qu'on avait échoué. McCaleb, lui, était persuadé du contraire. À ses yeux, il s'agissait d'un moyen tout à fait crédible de sonder les profondeurs de l'esprit humain. Si ça ne marchait pas, c'était que l'hypnotiseur s'y prenait mal, rien à voir avec la science elle-même. Entendre Winston déclarer qu'elle était partante pour réinterroger Noon sous hypnose l'avait surpris. D'après elle, la possibilité de recourir à cette méthode avait été évoquée deux ou trois fois pendant les points hebdomadaires de la criminelle, lorsque l'échec de l'enquête sur l'assassinat de Cordell était revenu sur le tapis. Mais cette suggestion était restée lettre morte pour deux raisons, la première étant la plus importante. En tant que technique d'investigation, l'hypnose avait été souvent utilisée au début des années 80, jusqu'au jour où la Cour suprême de Californie avait arrêté que les témoins auxquels on rafraîchissait la mémoire par ce procédé ne pouvaient pas témoigner dans des affaires criminelles. Cela voulait dire que chaque fois qu'il décidait de soumettre un témoin à l'hypnose, l'enquêteur devait d'abord voir si ce qu'il pouvait en tirer valait la peine de perdre toute chance de le faire entendre dans une cour de justice. Winston et son capitaine n'ayant pas envie de perdre leur seul et unique témoin, on avait renoncé à recourir à cette technique dans l'affaire Cordell. La deuxième raison était qu'après l'arrêt de la Cour suprême, le bureau du shérif avait cessé d'entraîner ses inspecteurs à l'utilisation de ce procédé. Résultat, plus de 15 ans après le jugement de la Cour suprême, le nombre d'inspecteurs rompus à cette technique avait singulièrement diminué. De fait, plus personne n'étant capable de soumettre Noon à ce traitement, il faudrait aller chercher quelqu'un d'extérieur, ce qui compliquerait encore les choses et coûterait de l'argent. Lorsque McCaleb lui avait annoncé qu'il avait pratiqué cette méthode pendant plus de 10 ans au FBI, Winston s'était encore plus enthousiasmé pour cette idée. Quelques heures plus tard, elle réussissait à obtenir le feu vert de son patron et à programmer la séance. McCaleb arriva au bureau des homicides du Star Center une demi-heure en avance. Il prévint Lockridge qu'il en aurait pour un moment et lui conseilla d'aller dîner quelque part. Grâce à la petite sieste qu'il avait faite, sa fièvre était presque entièrement retombée. Il se sentait reposé et prêt à agir. La perspective de tirer quelque chose de consistant de la mémoire de Noon et d'ainsi faire avancer les choses l'excitait beaucoup. Jay Winston le retrouva à l'accueil et l'accompagna jusqu'au bureau du capitaine sans cesser de parler. « J'ai lancé un avis de recherche pour Bolotov, » lui dit-elle. « J'ai fait envoyer une voiture pour le cueillir, mais il avait déjà filé. Il a disparu. Il est clair que vous avez fait mouche. » « Oui, peut-être, quand je l'ai traité d'assassin. Je ne suis toujours pas persuadé que c'est ce qu'on a de mieux, mais pour l'instant... Et bien sûr, Arango n'est pas très heureux. Je dois reconnaître que nous ne lui en avons pas parlé avant. Pour lui, vous ne faites que jouer au cow-boy. Ne vous inquiétez pas pour ça, je me fous de ce qu'il pense. Vous n'avez pas peur de Bolotov? Vous m'avez dit qu'il avait votre adresse. Non, il a celle du port de plaisance, pas le nom de mon bateau, et le port est grand. » Elle ouvrit la porte et s'effaça pour le laisser entrer. Trois hommes et une femme l'attendaient dans la petite salle. McCaleb reconnut Arango et Walters. Winston le présenta au capitaine Al Hitchens et à la femme, une dessinatrice de la police qui avait nom Donna Gross. Elle était là pour faire un portrait robot du suspect si Noon ne reconnaissait pas Bolotov d'entrée de jeu. « Je suis content que vous soyez en avance, » dit Hitchens. « Monsieur Noon est déjà arrivé, on va pouvoir commencer tout de suite. » McCaleb acquiesça d'un signe de tête et regarda les autres. Arango avait la moue méprisante de celui qui ne croit pas à ce genre de truc. Un cure-dent sortait d'un ou deux centimètres entre ses lèvres serrées. « Il y a trop de monde dans cette salle, » dit McCaleb. « Ça risque de perturber le sujet. Il faut qu'il puisse se détendre complètement et on n'y arrivera pas avec tous ces gens. » « Nous ne serons pas tous là, » lui répondit Hitchens. « J'aimerais que Jay et vous soyez seuls dans la pièce. Vous ne faites entrer Donna que si c'est nécessaire. » « Nous allons tout enregistrer en vidéo et nous avons un écran de contrôle ici même. Ça vous va ?» Il lui montra un moniteur posé sur une table roulante dans un coin de la pièce. McCaleb regarda l'écran et y vit un homme assis à une table, les bras croisés devant lui. C'était bien Noon. Même avec la casquette de baseball qu'il portait sur la tête, McCaleb reconnut en lui le témoin qui s'était trouvé sur les lieux du crime et que la caméra de surveillance du distributeur de billets avait filmé. « C'est parfait. » dit-il. McCaleb regarda Winston. « Vous avez préparé un jeu de 6 photos avec Bolotov au milieu ?»« Oui, il est sur mon bureau. On va commencer par le lui montrer, on ne sait jamais. Si on avait de la chance... » S'il le reconnaît, il n'y a plus besoin d'hypnose et on peut garder Noon pour le tribunal. McCaleb acquiesça d'un hochement de tête. Ça aurait été drôlement bien qu'on montre les photos à Noon avant que l'oiseau s'envole, dit Arango en regardant McCaleb. Celui-ci réfléchit à une réponse puis décida de la garder pour lui.